Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous arrivez à l'instant sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez chaque jour. J'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur la consigne. Le gouvernement veut un Big Bang dans la poubelle des Français et certains ont déjà commencé à y mettre de l'ordre. Ils sont avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Elle existe depuis 1956 et considérée comme la Rolls de la robinetterie en France, la Picarde THG et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis mettre en contact les jeunes et les entreprises, c'est ce que fait StaffMe. C'est la solution ce mardi pour que des missions ponctuelles deviennent un véritable travail. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez l'habitude, vous décrochez votre téléphone et vous aurez la parole. Venez nous dire, par exemple, si vous êtes prêt, Anissa, à vous mettre à la consigne.
Venez nous dire si vous êtes prêt, venez nous dire si vous êtes déjà un inconditionnel de la consigne. Venez nous raconter votre quotidien, comment vous consignez sur Twitter, hashtag Europe 1. Et on vous écoute au 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Eh oui, parce qu'il fut un temps où c'était obligatoire. Allons-nous véritablement y revenir? En tout cas, la volonté du gouvernement est de faire changer les choses. Et vous allez voir que des acteurs ont su s'y prendre en amont pour anticiper ce changement. Pour les accueillir à mes côtés, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Kérou, président fondateur de Didaxis et du Club des entrepreneurs.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Quand on voyage beaucoup, vous serez d'accord avec moi, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous et de ce qu'on voit, notamment dans les autres pays. Les pratiques, les gestes du quotidien sont parfois différents des nôtres. C'est ce qui s'est un peu passé pour vous. Augustin Jacquelin, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Lemon Tree, une consigne pour les bouteilles en plastique. C'est une start-up que vous avez montée avec votre ami d'enfance et votre envie depuis toujours, en tout cas depuis que vous avez terminé vos études, c'était de faire quelque chose pour la planète. Alors, vous êtes rentré de ces voyages dont on parlait en France en vous disant qu'ailleurs, la consigne existait et que chez nous, elle avait plus ou moins disparu. Donc, vous vous êtes dit, il faut peut-être la relancer.
Oui, alors en fait, on a démarré en 2011. Ça nous ramène quand même 8 ans en arrière maintenant.
Quand même, oui.
Donc, quand on voit l'actualité, là, qui s'excite, on se dit que, bon, il a fallu un petit peu de temps, mais qu'on a eu raison de s'accrocher. Donc, en 2011, avec mon ami d'enfance, Emmanuel Bardin, on s'est dit qu'on voulait lancer une activité en ligne avec nos valeurs et notamment l'environnement. Et effectivement, on avait eu la chance de voir des automates dans d'autres pays.
Notamment en Allemagne.
En Allemagne, aux États-Unis, dans les pays nordiques, capables de déconsigner des emballages. Donc très concrètement, vous payez un petit peu plus cher votre emballage donc au moment de l'achat. Un montant est consigné et vous récupérez cet argent quand vous déposez cet emballage dans l'automate.
Donc vous vous dites, si c'est possible ailleurs, on peut le faire en France et vous commencez à ramener les machines, c'est ça? Et vous les installez, vous installez la première, je crois, chez Bouygues, hein, qui tente l'aventure et qui vous fait confiance.
Oui, alors c'est pas si simple parce qu'en fait, le dispositif de consigne, c'est décrété par un État de façon unilatérale. Et en France, c'était effectivement pas du tout le cas. En revanche, cette technologie, effectivement, elle nous paraissait intéressante. Et surtout, on était parti d'un constat qu'on avait un vrai souci sur la captation de ces emballages. Très concrètement, on est capable de recycler une bouteille en plastique, une canette, un gobelet.
Encore faut-il pouvoir la récupérer.
Voilà, il faut que ça arrive dans le bon tuyau. Et du coup, c'est là où ces machines nous ont paru intéressantes. Et faute de pouvoir en installer sur un dispositif exactement comme celui de la consigne à l'époque, on a proposé à des entreprises, dans leur cafétéria, à des écoles, à des campus, à des centres sportifs, de mettre ces automates pour inciter leurs utilisateurs, leurs étudiants, leurs salariés, justement, à trier plus pour recycler davantage cette matière.
Ça marche plutôt bien de 2011 à 2015. Et en 2015, là, vous investissez les supermarchés. Vous mettez vos machines dans les supermarchés avec le même principe, c'est-à-dire que le client entre, vient déposer ses bouteilles et en échange, il a un bon d'achat, il peut aller faire ses courses.
Voilà, on va un petit peu plus loin en 2015, c'est-à-dire que les premières années, ces machines étaient plutôt à disposition dans des lieux fermés, voilà, des salariés, des étudiants. Et puis, on met nos premières machines dans des supermarchés où tout un chacun peut venir déposer ses bouteilles et récupérer un bon d'achat à utiliser en magasin.
Vous avez 350 machines qui sont installées aujourd'hui comme ça ?
Exactement. L'activité s'est pas mal développée. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 50 salariés, des machines un petit peu partout en France. Une concentration territoriale relativement forte en Île-de-France et en région PACA.
Et il y a une raison à ça.
Oui, il y a une raison.
C'est que vous vouliez aller là où finalement le recyclage était peut-être le moins avancé, notamment en région PACA ?
Exactement. En fait, au moment où on a décidé de démarrer cet essaimage, l'idée était aussi d'aller là où on serait le plus utile. Et aujourd'hui, les taux de recyclage sont différents d'une région à l'autre, et, relativement faibles en région PACA, et notamment, le sujet, il est dans les métropoles. Dans les grandes villes, globalement, on trie beaucoup moins bien. Pour vous donner un ordre de grandeur, là où la moyenne nationale sur les bouteilles en plastique est autour de 60% de taux de collecte et de recyclage, dans les grandes villes, on tombe en dessous de 20, voire 10%. Ça veut dire qu'en gros, une bouteille sur 10 seulement est recyclée à Paris ou à Marseille.
Elisabeth, c'est justement la raison pour laquelle le gouvernement veut relancer la consigne aujourd'hui.
Complètement, parce que le gouvernement estime que la France est à la traîne au niveau des consignes. Pour vous donner une idée, à Paris, moins d'une bouteille en plastique sur 10 est recyclée. À l'échelle du pays, seuls 55% des bouteilles en plastique et 45% des canettes peuvent avoir une deuxième vie. En toile de fond, on a l'Union européenne qui a fixé un objectif. 90% de bouteilles en plastique doivent être recyclées d'ici à 2029. Donc la collecte pratiquée aujourd'hui n'est pas assez performante. D'où l'idée d'instaurer un système de consignes pour les bouteilles en plastique, pour les canettes. Et on l'a vu en Allemagne et en Scandinavie, ça fonctionne hyper bien.
Et justement, le gouvernement est venu vous voir en 2018 pour travailler avec vous sur les bases que vous aviez jetées, parce que vous avez réussi à créer quelque chose qui fonctionne de A à Z, parce que non seulement vous allez chercher la bouteille, vous la récupérez ensuite et puis vous l'emmenez pour qu'elle soit recyclée.
Alors en fait, Lemon Tree, c'est une entreprise qui utilise des technologies et des machines, mais c'est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a créé une activité qui s'appelle Lemonade, co-créée, puisqu'on a fait ça avec une fondation et un grand groupe, pour justement assurer l'intégralité de la chaîne et proposer un service complet. Et aujourd'hui, c'est donc une activité d'insertion qui s'occupe de la partie collecte, tri, conditionnement. Conditionnement, ça veut dire faire des gros cubes, des grosses balles pour envoyer ensuite cette matière directement au recycleur.
Ça veut dire qu'on écrase le plastique et qu'on le condense et qu'ensuite il est exporté.
Alors, il n'est surtout pas exporté.
Pas exporté jusqu'au point de...
Ce qu'on défend aussi, c'est justement...
Pas exporté en dehors de nos frontières, évidemment.
Voilà, et l'intérêt aussi de notre activité, c'est qu'on maîtrise toute cette chaîne et on a un circuit qui est très court, puisque, pour vous donner un ordre d'idée, une bouteille, en 6 semaines, elle va pouvoir redevenir une nouvelle bouteille. Donc, on est vraiment dans une démarche circulaire. Exactement. Et le principe aussi de ces automates, c'est qu'on trie directement à la source la matière. Les bouteilles sont super propres. Elles sont ensuite, effectivement, compressées pour retrouver des usines qui transforment, c'est-à-dire qu'ils vont laver, granuler et puis refaire des préformes pour qu'elles soient resoufflées en bouteille.
Que dit notre coach de l'aventure Lemon Tree ?
Non, vous êtes en plein dans l'actualité, aussi bien sur le recyclage que sur la loi Pacte, où effectivement on favorise les entreprises à mission. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir un peu comment ce modèle social, il peut se développer, est-ce que c'est scalable, est-ce qu'on peut passer à une taille supérieure, et est-ce que l'actualité vous fait ressentir les prémices d'un développement, d'un intérêt des clients potentiels, des partenaires potentiels?
Il faut quand même se dire que l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'activité française,
donc PIB,
c'est,
ouais.
Voilà, c'est pas neutre. Oui, c'est scalable, et justement nous, on a à cœur de défendre un modèle où effectivement on a peut-être une nouvelle vision du capitalisme, quelque chose de plus raisonné, de plus redistributif, où on fait peut-être davantage attention aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est dans la ligne directe de notre engagement environnemental initial, de vouloir aller vers plus d'impact, quelque chose de plus inclusif. Et je pense qu'on est un bon exemple de la capacité justement à développer, à essaimer. Et c'est pas parce qu'on vise l'impact, et notamment l'impact social, qu'on ne peut pas être performant, se développer.
Et des fonds solidaires qui vous aident derrière pour éventuellement vous développer ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a besoin de fonds. Nous, en plus, on a une activité assez capitalistique. Il faut investir dans les machines, les camions, les mètres carrés, etc. Et donc, ce sont des fonds spécifiques, dits à impact, qui nous accompagnent. Plus une cinquantaine de business angels. Donc, vous voyez, c'est une aventure assez collective.
Et c'est une aventure qui ne fait que démarrer. En tout cas, on vous le souhaite. Vous restez avec nous et on continue
avec
à parler
plaisir.
Consignes aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Pour lancer la consigne justement dans les régions, il faut aussi un maillage. C'est comme ça que s'est créé le réseau Alsace Consigne. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours. Raphaël Duchemin, vous nous présentez ces Français qui bougent pour la France. Et aujourd'hui, ce sont ces start-up françaises qui permettent le retour de la consigne que nous découvrons. Vous pouvez réagir, leur poser toutes vos questions. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le numéro du standard.
Beaucoup de gens qui ont connu dans leur jeunesse le principe de la consigne pensent qu'elle a disparu. Mais non. Non, pas partout en tout cas. Bonjour Simon Baumer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'association Zéro Ouest Strasbourg et vous vous êtes associé avec des entreprises alsaciennes pour créer le réseau Alsace Consigne. Votre ambition avec Météor, Carola et avec Lisbeth aussi, qui sont des marques connues et reconnues en Alsace et pas seulement, c'est justement de faire vivre la consigne pour les emballages en verre. Racontez-moi comment démarre cette aventure. Je crois que c'est il y a un an et vous êtes en train de faire votre premier festival, c'est ça ?
C'est ça. On organisait le premier festival Zéro Déchet Strasbourg au mois de mai en 2018. Et à cette époque-là, on avait sollicité Carola et Météor pour être nos sponsors. Parce que déjà pour nous, la consigne faisait sens. Et donc on se disait, ça faisait sens de les inviter à nous financer pour ce festival.
Carola qui fait de l'eau, Météor qui fait de la bière.
En effet, depuis plusieurs centaines d'années, donc c'est des marques qui sont inscrites dans l'histoire de l'Alsace. Et à partir de là, on a fait une première conférence sur la consigne qui a amené des rencontres humaines, du coup. Et en dialoguant autour de la consigne qui intéressait ces entreprises-là, mais aussi notre association, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à faire pour améliorer la pratique de la consigne en Alsace et lui donner quelque part un second souffle.
Oui, vous dites améliorer, j'ai dit relancer, parce qu'effectivement, elle n'avait pas vraiment disparu. Elle était un peu en sommeil en Alsace. Du coup, vous vous dites qu'ensemble, vous serez probablement plus fort et que vous allez pouvoir lui donner un petit coup de jeune à cette consigne. Il se trouve qu'en Alsace, la population reste très à l'écoute de ce type de pratique.
Oui, contrairement au reste de la France, la pratique a perduré, même si elle a un peu périclité depuis les années 60. Il faut quand même faire un petit retour rapide en arrière de penser qu'avant les années 60, on ne pensait même pas faire autrement et utiliser des emballages jetables. Chaque entreprise avait son parc de bouteilles et tout le monde lavait ses bouteilles. Les entreprises alsaciennes ayant gardé la pratique de la consigne et la grande distribution ayant gardé le système de consigne, le système a perduré jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que était un peu pas très mis en valeur, on va dire. Les machines étaient parfois au fond du magasin, beaucoup de mal à repérer les bouteilles qui sont consignées, etc. Et du coup, l'idée, là, c'est vraiment de se mettre ensemble et de se dire, mais comment on peut faciliter la pratique pour le citoyen, donc que ce soit plus facile à rendre ses bouteilles, que ce soit plus visible et aussi que ce soit plus moderne.
Les gens avaient envie de le faire, mais ne savaient pas forcément que leur magasin avait une machine ou avait la possibilité, leur offrait la possibilité de venir déposer leurs bouteilles en verre.
On a des exemples assez éclairants de personnes qui allaient tous les jours dans un supermarché habituel, ils passaient tous les jours devant la machine et devant les bouteilles consignées et ensuite venaient nous voir et nous dire c'est dommage, la consigne elle a disparu. Et nous, on était là, on disait mais non, elle n'a pas disparu, elle existe. Et c'est vrai qu'elle...
Donc vous lui avez rendu de la visibilité.
Voilà, c'est vraiment l'objectif, déjà rendre visible ce qui existe et ensuite évidemment améliorer et redéployer. Il y a déjà quand même plusieurs centaines de points de vente en consigné, mais notre but c'est évidemment d'augmenter à la fois les chiffres de vente en consigné, mais aussi le nombre de magasins qui en vend.
Il y a des bouteilles qui sont en circulation depuis 20 voire 30 ans.
Tout à fait, tout à fait. Faut savoir, c'est que la plupart des bouteilles sont réutilisées au moins 20 à 30 fois. Et en effet, on peut avoir des bouteilles qui ont parfois plus de 20 ans, plus de 30 ans, puisqu'elles ne sont pas en fait éjectées au même rythme. Y en a qui peuvent être très récentes et être éjectées parce qu'elles ont une petite bréchure, mais certaines sont très très solides et vont durer plusieurs dizaines d'années. Donc ça aussi, c'est éclairant et ça parle aux gens.
Donc vous avez mis en place pour aider la population alsacienne une carte interactive, hein, pour leur dire, bah voilà, oui, ça existe. Et puis, il suffit d'aller sur la carte pour trouver les différents points. Et puis, vous avez aussi un autre projet, je crois, où vous voulez étendre, là, pour le coup, le principe.
Oui, alors, la carte est en cours de création. Justement, ça va être une de nos premières concrétisations pratiques pour que les gens puissent, à un moment, se dire « Mais OK, la consigne, je la trouve OK dans tel magasin. » Et la seconde initiative qui va faire certainement des émules, c'est les magasins pilotes. C'est l'idée de se dire qu'on va prendre des supermarchés qui existent déjà. On va accumuler toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir en Alsace, mais aussi en Suisse, en Belgique ou encore dans d'autres pays. Et on va mettre tout ça dans des lieux de vente. Et ensuite, on espère qu'avec toutes ces bonnes pratiques-là, les gens vont se mettre à reconsommer en consigne de manière plus massive.
Que dit notre coach, Guillaume ?
Est-ce que moi, ça me semble intéressant, c'est à l'ère du plastique, la chasse contre le plastique. Est-ce que, du coup, il y a des filières qui peuvent, la filière du verre, est-ce que ça peut être impacté par ce concept ? Est-ce que ça peut créer des emplois ?
Alors, il faut savoir, c'est que les emplois vont surtout se retrouver créés en grande et moyenne distribution, puisqu'on a de la logistique en plus qui est à faire. Et il faut le dire, la consigne permet de créer de l'emploi local non délocalisable. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, est intéressant. Pour la filière du verre, tout dépend si on considère qu'on va moins utiliser de bouteilles en verre, parce que, par exemple, la bière...
Moins de plastique et plus
ou
de
alors
verre.
Moins de plastique. Et c'est là où les entreprises ont vraiment leur rôle à jouer et quelles sont, elles, sur les deux tableaux pour deux des trois entreprises historiques, c'est qu'il peut y avoir un transfert du côté plastique vers le verre. Mais ça peut être aussi prendre des parts de marché à d'autres
Mais
marques sur
le plastique. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à jouer ce jeu, les entreprises?
Alors, ouais, les magasins aller, vous demandent hein, d'ailleurs, hein, vous disent alors, vous voudrez participer.
Les fabricants de boissons, ils sont prêts à y aller ?
Alors nous, oui, puisque dans notre réseau qui est créé, on a plusieurs fabricants de boissons. Et d'ailleurs, le réseau sera ouvert à partir du 1er janvier 2020 et il y a certainement d'autres fabricants de boissons qui vont nous rejoindre.
Elisabeth, là on a une association, mais vous avez aussi trouvé des entreprises qui s'intéressent à cette consigne des emballages en verre.
Tout à fait. Hein. Vous avez par exemple Jean Bouteille.
Tout simplement,
vente de boissons dans des bouteilles consignées. Des boissons, en fait, c'est des ventes de liquide en vrac. Hein. Sa start-up propose des tireuses de vin, d'huile, de lessive disponibles en magasin et un contenant consigné et réutilisable. Depuis 2017, je vais vous donner un chiffre, cette solution Jean Bouteille a évité la production de 103 000 bouteilles. Ils se sont associés avec Franprix pour justement démocratiser davantage le concept. Vous avez aussi Bout à Bout, eux ils sont à Nantes, c'est une association en partenariat avec du local, avec des producteurs locaux de boissons, de vin, bière, cidre, etc. qui, eux, alors ils mettent leur logo sur leur bouteille pour ensuite être réutilisés.
On reste ensemble et on continue à parler consignes sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si vous pouviez ramener aussi l'emballage de votre déjeuner, eh bien c'est possible et c'est ce qu'a créé Niji. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir toutes ces start-up françaises qui investissent, qui innovent, qui avancent et qui permettent le retour de la consigne. On parle de la consigne aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On vous écoute également au 39-21, c'est le standard.
Vous êtes de plus en plus nombreux à déjeuner sur le pouce quand vous allez acheter une salade à Nissa ou un plat en bas de votre bureau. Que faites-vous de l'emballage ? Eh bien, désormais, vous pouvez le ramener. Bonjour Céline Skavenec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Niji et vous avez créé Eat and Bag, c'est-à-dire manger et ramener. Vous êtes, je crois, encore en phase de test hein, du côté de la métropole lilloise. L'idée, c'est qu'on puisse justement acheter notre déjeuner, le mettre dans une boîte et ramener la boîte ensuite.
C'est tout à fait ça. La boîte est consignée, mais elle est consignée numériquement.
C'est-à-dire
que je me suis inspirée de ce qu'on a tous vu arriver ces dernières années, c'est dans les événements culturels, par exemple dans les festivals, les gobelets consignés qui ont complètement éliminé les gobelets jetables et c'est très bien. Et je me suis aperçue qu'il y avait une solution pour les boissons, mais qu'il n'y avait rien pour les repas et qu'on continuait à aller se servir, aller acheter dans les food trucks, dans les restaurants emportés ou se faire livrer. C'est tellement facile aujourd'hui de se faire livrer avec n'importe quelle plateforme. Des repas qui sont toujours servis dans des emballages jetables. Mmh. Et dans un certain nombre de situations, je me suis dit, on doit pouvoir utiliser des contenants lavables, réutilisables. Mais pour cela, il faut travailler avec les professionnels de la restauration.
C'est comme ça qu'est née la box qui est juste à nos côtés. Anissa va nous montrer, parce que je crois qu'elle s'ouvre de manière un peu particulière. Comment est-ce que vous l'avez créée, ça ? Ça rappelle un petit peu les box japonaises.
Hein. Exactement, ça rappelle un petit peu les bento japonais. Mmh. Ou alors, ça rappelle également des boîtes qui sont utilisées en Inde.
Oui.
Ça veut dire tout simplement que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, on utilise très facilement des contenants lavables, réutilisables pour servir des repas au quotidien. Et moi, j'ai eu cette idée en allant tout simplement rencontrer les professionnels de la restauration, rencontrer les gens qui font à manger, qui servent leurs repas dans des barquettes, plastique, carton, jetables, etc. Et ça les désole. Ça les désole autant que nous. Et donc, ils étaient aussi en demande d'un contenant plus design, plus joli, plus pratique pour servir leur repas.
Donc le restaurateur va vous dire, très bien, je marche avec vous, je mets les box en service. Qui paye ?
C'est ça.
Qui paye ?
C'est ça.
Est-ce que c'est moi qui viens acheter ma salade ou est-ce que c'est le restaurateur ?
Alors, le restaurateur, il est affilié à Eat & Back. Donc il va m'acheter un certain nombre de lunchbox et il va avoir l'appli Eat & Back sur son logiciel de caisse, sur son ordinateur. Et ses clients, c'est-à-dire vous êtes aussi abonné à Eat & Back. Vous êtes inscrit, vous avez l'appli sur votre smartphone. Vous allez acheter un repas à emporter, entrée, plat, dessert. On peut comme ça empiler trois petites boîtes les unes sur les autres ou alors un simple petit repas, une petite salade. Mm-hmm. Vous payez que le repas. Avec votre smartphone, vous enregistrez que vous êtes parti avec la boîte. Clic, on consigne. Le restaurant vous donne 10 jours pour rendre la boîte. Vous ramenez la boîte, clic, on déconsigne et vous n'avez rien payé.
Et les gens sont prêts justement à faire cet aller-retour jusqu'au restaurant ?
Eh bien j'espère. Alors peut-être pas dans toutes les situations de notre vie quotidienne. Bien sûr, si on part en voyage, on ne va pas le faire. Mais au quotidien, avouons-le, on mange souvent aux mêmes endroits, à côté de son travail, ou on commande des plateaux repas en entreprise, toujours au même traiteur. Et donc, il y a énormément de situations dans lesquelles on peut se passer des emballages jetables au quotidien.
Qu'en dit notre coach, Guillaume Kerrou ?
Non, c'est astucieux. C'est vrai que les plateformes pourraient s'en inspirer de livraison à domicile, puisqu'on est des consommateurs réguliers. Moi, je voulais juste savoir d'où vient le nom Niji ? C'est japonais ?
Oui, c'est bien, c'est ça. Ça vient du japonais. C'est un nom qui nous a plu beaucoup avec mon associé.
Sadia, c'est ça ?
Avec Sadia, voilà, que je salue. Au moment où on a fondé cette société, il y a presque 2 ans maintenant, qu'on travaille sur le projet. Et c'est important parce que ça vient de l'île de Nijima qui a émergé au sud du Japon, il y a quelques années. C'est une île volcanique, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, la planète nous a donné une île. Et on trouvait que la symbolique de la reprise en main de la planète sur ce qu'on peut faire de plus horrible pour l'environnement, ça nous plaisait bien.
Elisabeth ?
Vous avez justement des liens, vous êtes en train de d'entrer en discussion avec les entreprises qui livrent des repas quotidiennement aux Français ?
Oui, c'est en cours. En fait, on est en démarrage, puisque la société, je vous dis, est très très récente.
Oui, créée fin 2017.
Voilà.
Créée fin 2017. Le produit, il a fallu le fabriquer. Il est fabriqué à Tourcoing. Nous, on est installés à Roubaix, dans le Nord. Et c'est très important pour nous
de rester là-bas.
La fabrication locale. Et c'est une petite boîte qui n'est pas en plastique pétrochimique, qui est en matériaux biosourcés. Donc, c'est très léger et c'est très pratique.
Et donc, vous êtes en discussion avec ces entreprises ?
Exactement. On voulait faire la preuve de concept, la preuve de marché, en testant avec un certain nombre de restaurants partenaires dans un premier temps sur la métropole lilloise. Et là, maintenant, je pense que
vous êtes prêts.
On est prêts.
Ouais. Grand bain.
Et vous êtes aussi la preuve qu'on peut se reconvertir parce que vous étiez fonctionnaire dans le secteur public et vous avez monté votre entreprise. C'est quand même bien de le signaler. On reste ensemble et on va continuer à parler consigne sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge avec vous. Venez.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse à ces start-up françaises qui permettent le retour de la consigne. Alors, si vous avez envie, vous aussi, que la consigne revienne, dites-le nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dites-nous ce que vous êtes prêt à faire pour le retour de la consigne. On vous écoute également au 39-21. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute.
Nous sommes avec Augustin Jacquelin, cofondateur de Lemon Tree, consigne pour les bouteilles plastiques et les canettes. Simon Baumer, cofondateur de l'association Zéro Déchet Strasbourg et initiateur du réseau Alsace consigne. Ça, c'est pour les bouteilles en verre. Et puis, Céline Skavenek, fondatrice de Nigi, start-up qui a créé Eat & Back, la lunchbox consignée pour la restauration à emporter. Notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Kérou. Elisabeth Assaeg est évidemment toujours avec moi. On a déjà des messages sur Twitter.
Oui, on a Xavier qui vous écrit à tous les trois sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et il vous pose cette question. Pourquoi se cantonner uniquement aux bouteilles en plastique? Il y a aussi les pots de fromage blanc, les pots contenant par exemple du houmous ou du guacamole. On voit qu'il a l'habitude de faire l'apéro, Xavier. En reprenant ces emballages, pourquoi ne pas les laver, les remettre en circulation avec une nouvelle date de péremption?
Alors, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'il faut hésiter? Est-ce qu'on passe un coup de jet avant de mettre dans la bonne poubelle, par exemple?
En tout cas, première chose, je pense que c'est important de différencier ce qu'on appelle consigne pour recyclage et consigne pour réutilisation, parce que parfois on mélange un peu les deux sujets. Aujourd'hui, les initiatives pour la collecte des bouteilles en plastique, c'est de la consigne pour recyclage. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un sujet. Une des difficultés, c'est d'aller capter des emballages nomades. Donc, pourquoi les bouteilles en plastique? Pourquoi les canettes? Parce que vous bougez avec. Quand vous êtes dans la rue, vous ne savez pas quoi en faire, etc. Donc, il y a aussi une distinction qui est opérée entre les emballages plutôt domestiques et les emballages dits nomades, qu'on retrouve aussi un petit peu partout. Donc après, techniquement, c'est toujours possible, mais l'idée, c'est d'abord de s'attaquer à l'urgence et en tout cas à ces emballages plastiques qui, en plus, se recyclent très bien. Parce qu'il faut aussi penser à l'aval derrière. Si on collecte, il faut être capable de recycler et de remettre dans le circuit.
Même chose pour les bouteilles. Quel est le chiffre qui est en combien de bouteilles en circulation?
Il y a plus de 25 millions de bouteilles au minimum qui sont consignées, donc réutilisées, lavées chaque année en Alsace. Il faut quand même se dire que c'est 25 millions d'emballages en moins. Voilà, mine de rien. Et ensuite, je voulais rebondir sur les autres contenants et types de contenants. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de micro-initiatives de territoire qui sont parfois invisibles puisque très locales, où on peut avoir par exemple des vendeurs de crème, etc., qui consignent leur peau. Simplement, voilà, c'est pas fait de manière industrielle, donc très peu visible.
Elles peuvent nous écrire et elles peuvent venir ici à La France Bouge, on les recevra avec grand plaisir. Je voudrais vous énerver un peu parce que c'est André qui nous écrit. Il dit, le retour de la consigne, c'est n'importe quoi. On l'avait avant, on n'a pas eu la sagesse de la garder. Il faudrait tout simplement améliorer le tri sélectif. Les sociétés qui font les bouteilles en plastique nous prennent pour des couillons. Ce sont ces mots. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il a raison, André? Est-ce qu'on a oublié qu'on savait faire? Est-ce qu'il faudrait faire autrement, Céline?
Moi, je pense clairement que là, on ne parle pas du retour de la consigne. On parle de la consigne d'aujourd'hui, la consigne 2019. Ce n'est pas un retour à ce qu'ont connu nos grands-parents. C'est ce que vivent les Allemands aujourd'hui, les Allemands, les jeunes de notre génération. C'est ce qu'on vit dans d'autres pays. Et c'est ce qu'on va inventer demain avec les outils numériques d'aujourd'hui pour consigner de manière facile, simple. Et donc, on n'est pas sur un retour à que sais-je.
Elisabeth, il y a des consignes qui se concentrent sur les déchets de la restauration. Je crois que vous en avez trouvé.
Alors vous avez Reconcil, c'est une jeune entreprise parisienne qui propose de réduire les déchets de la restauration à emporter grâce à un système de consignes. Ils ont des restaurants en partenaire. Les clients peuvent choisir un contenant dans une matière spéciale, un thermoplastique utilisé pour contenir les aliments, le polypropylène. Et ils sont consignés en échange de 2 euros et le client est remboursé lorsqu'il rapporte son emballage. Le contenant est loué au restaurateur par l'entreprise, puis il est collecté pour être lavé à haute température. Vous avez aussi Green Go, c'est une consigne pour les rayons traiteurs, pour en finir avec les emballages jetables, des plats emportés. Il y a 2 jeunes entrepreneurs se sont dit qu'ils allaient remettre la consigne dans les rayons traiteurs. Ils mettent à disposition des clients sur le comptoir une grande chaîne de produits, des récipients consignés pour pouvoir y mettre les carottes râpées, le quinoa ou autre.
Augustin, je voudrais qu'on précise une chose parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez proposé au gouvernement que le client, quand il ramène sa bouteille en échange du bon, il puisse déposer en fait l'argent sur une carte, mais carte un peu particulière avec une monnaie verte, c'est ça?
En fait, il y a pas mal, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, on peut innover sur plein de points. Effectivement, que ce ne soit pas un ticket que vous récupériez, mais que ce soit dématérialisé, quasiment même recréer une monnaie verte consignée. Nous, il y a d'autres particularités qu'on avance, c'est que sur chacune de nos machines, plutôt que de prendre un bon d'achat pour vous, vous pouvez faire un don à une association et aller un peu plus loin encore dans la démarche vers les autres. Donc, on défend un modèle de consigne inclusif, beaucoup plus technologique, effectivement, aussi. Et aussi un système de consigne ouvert. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a une grosse crainte des collectivités sur ce sujet, en disant on va être dépossédé d'une partie de ce qu'on fait aujourd'hui. Or, ils peuvent tout à fait, demain, s'équiper en machines, se positionner en point de collecte. On peut imaginer des machines sur les places de marché, etc. Donc, il faut le penser. C'est un gros changement de système, mais il faut le penser collectivement avec toutes les parties prenantes.
Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner deux messages. René, à Paris, qui nous dit « J'ai bien connu la consigne, c'était très bien. Je suis très énervée quand je vois des canettes ou des bouteilles plastiques dans la rue. Les Français sont d'accord, mais pas prêts à faire les efforts pour que ça aille mieux. » Et puis Aurélien, qui est à Villeurbanne, qui nous dit « Je pratique la consigne depuis de nombreuses années. Je trouve cela formidable et important de le faire pour la vie de nos enfants dans le futur. » C'était des messages au 39-21. Merci d'être venu aujourd'hui parler consigne avec nous sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, on va s'intéresser à une entreprise qui est née en 1956. Elle fait de la robinetterie, mais pas n'importe laquelle, de la robinetterie de luxe. Elle est connue dans le monde entier, c'est THG et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
Et sur Europe 1, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps, Raphaël, de découvrir l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, elle a 63 ans, cette entreprise.
Oui, cette entreprise, c'est THG, le leader de la robinetterie de luxe dans le monde. Bonjour Anne-Sophie Gosse.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-dirigeante de cette maison qui a une vraie histoire en Picardie. THG, ça démarre avec votre grand-père, le G de THG, et deux de ses amis, André Tétard et Julien Audiquet. Leurs initiales vont donner le nom à l'entreprise, mais au départ, c'est la robinetterie de la Poste, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. La robinetterie de la Poste, puisque les ateliers se trouvaient sur la place du village, en face de la Poste. Et du coup, d'où le nom.
À Bettencourt-sur-Mer, c'est ça. Qu'ont-ils en tête quand ils démarrent, ces trois-là ?
Alors, au départ, l'entreprise fabriquait principalement de la robinetterie de collectivité pour les hôpitaux, les écoles, etc. Et puis, très vite, ils se sont mis à fabriquer ce qu'on appelait de la robinetterie de style. Des robinetteries avec...
Qui sortent de l'ordinaire.
C'est ça. Avec des finitions particulières, des incrustations de matières comme du cristal, des pierres semi-précieuses, de la porcelaine.
Et ce sont des rencontres hein, qui les ont inspirées. Je pense par exemple à Jean-Claude Delépine, qui va aussi avoir un rôle moteur dans finalement la connaissance, la renommée de la maison.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui va nous permettre de nous étendre à l'international justement.
C'est là que vous entrez dans les années 70 vraiment sur le marché du luxe ?
Oui, tout à fait. On a commencé à vendre nos robinetteries du coup sur des marchés tels que le Moyen-Orient, la Russie, la Chine. Et puis très vite, mon père a repris les rênes de l'entreprise avec ma mère. Et puis, ils ont mis en place des partenariats avec des maisons françaises très, très connues.
Vos parents arrivent en 1981, c'est ça ? Les trois familles sont très liées hein, jusqu'au bout, en fait, dans l'histoire de l'entreprise THG.
Oui. Les trois fondateurs ? Alors, c'était mon grand-père, mon arrière-grand-père et l'associé. Et puis, dans les années 80, l'entreprise a été reprise à 100% par ma famille.
Par vos parents. Vous arrivez, vous, en 2012, c'est ça, dans l'aventure ?
C'est ça.
C'était une évidence pour vous ? Vous aviez envie de venir aider vos parents dans cette belle aventure ?
Alors, c'était une évidence, pas tout de suite. En fait, moi, je terminais mes études en école de commerce. Et puis, mon père avait besoin d'aide pour renforcer le service marketing et communication, qui était déjà présent à l'époque, mais peu développé. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entreprise.
Depuis, vous avez évolué, vous êtes aujourd'hui co-dirigeante. L'entreprise, elle, elle a gardé les fondamentaux, elle a le label entreprise du patrimoine vivant. Ça signifie que vous fabriquez toujours de la même manière, comme vous avez commencé à fabriquer il y a 60 ans ?
Alors, on a préservé le savoir-faire, puisque c'est vraiment une valeur hyper importante pour nous. On s'est industrialisé entre-temps quand même. Aujourd'hui, on a la particularité d'être à la fois des industriels et des artisans.
Oui, parce que vous avez tous les stades de fabrication.
C'est ça. On fabrique la robinetterie de A à Z. Tout est...
De la fonderie, enfin du dessin à la fonderie, à l'usinage, c'est ça?
C'est ça.
Vous avez aujourd'hui 200 personnes, c'est ça, qui travaillent chez vous, chez THG. On est toujours, hein, pour l'essentiel, dans la Picardie, dans finalement l'usine de départ.
Oui, oui, bien sûr. Tous nos ateliers sont restés basés en Picardie et 100% de la production est française.
Aujourd'hui, l'avenir, c'est quoi pour vous? Essayer de densifier justement ce que vous avez commencé à industrialiser?
Alors nous, l'avenir, principalement, donc, c'est de préserver le savoir-faire, évidemment. Et puis, on a une stratégie de diversification. On aimerait proposer autre chose que de la robinetterie. Et du coup, on va développer des produits toujours pour la salle de bain. Type sèche-serviette, baignoire, vasque. Voilà, ça, c'est notre stratégie pour l'avenir.
Que dit notre coach de l'aventure THG ?
Non, c'est intéressant, surtout que là, on a la représentante d'une troisième génération d'entrepreneurs. Est-ce que vous avez envie d'insuffler quelque chose de différent des deux autres générations ? Je sais pas, je pensais au niveau digital, je ne sais pas, des choses. On a parlé effectivement de diversification et peut-être vous êtes jeune, donc qu'est-ce que vous voulez insuffler à cette entreprise ?
Tout ce qui est en effet, en ce qui concerne la communication, tout ce qui va être digital, on essaie de mettre ça en place déjà depuis quelques années. Et puis pour les produits, on essaie aussi de proposer des nouveaux partenariats avec d'autres entreprises, peut-être que mes parents auxquelles n'avaient pas pensé.
Les maisons dont vous parliez, c'était quoi comme maison ?
Il y avait la maison Lalique, la maison Baccarat, Bernardo, la porcelaine.
Et voilà. Et vous faites aujourd'hui 80% de votre chiffre d'affaires à l'export, c'est-à-dire que c'est une maison qui est connue et reconnue à l'étranger, un peu moins peut-être en France ?
Alors, le savoir-faire et les produits français
se vendent bien,
se vendent très bien à l'export. En France, on vend moins ces produits de prestige, mais on a toujours des gammes adaptées aussi au marché français, évidemment.
Elisabeth ?
Alors, pour que l'on puisse bien se représenter, c'est quoi votre produit phare, le robinet phare que vous vendez le plus chez vous ?
Alors, le best-seller chez nous, on a justement avec notre partenaire Baccarat, c'est la collection qui s'appelle Pétales de cristal.
Ça ressemble à quoi ?
C'est donc la robinetterie avec les croisillons en cristal Baccarat,
wow.
Dessiné par l'architecte Pierre-Yves Rochon. Ça, c'est vraiment...
Ce qui se vend le plus chez vous.
Oui.
Les Chinois l'ont adoré.
Ce qui représente bien l'ADN de la maison.
Les Chinois, effectivement, c'est un de vos...
Les Chinois adorent, oui. Oui, oui, bien sûr. Ils sont très friands de ces produits d'exception.
Longue vie donc à THG, qui a déjà un peu plus de 60 ans. C'est l'entreprise qui va
bien.
Beaucoup. Merci d'être venu en parler.
Merci.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, des missions ponctuelles pour les jeunes qui deviennent un véritable travail. C'est la solution pour que ces jeunes soient mis en relation avec des entreprises. C'est Staff Me, à tout de suite.
La France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités. Juste avant 14h, chaque jour, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Et alors là, en pleine période de recherche du job d'été, c'est la solution idéale.
Eh oui, ce n'est pas toujours facile de trouver un petit
c'est
boulot
sûr.
Pendant l'été. Elisabeth, il existe une solution, elle s'appelle Staff Me. Alors, ce sont des missions ponctuelles
oui.
qui rapportent.
Mais oui, un Staff Me, ça existe depuis 2 ans et demi. Et le principe est simple, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des jeunes âgés de 18 à 30 ans pour trouver des missions, des petits boulots ponctuels. Le plus de cette plateforme, c'est qu'il ne s'agit pas de trouver le premier boulot qu'on vous propose, c'est surtout une sorte de job matching, c'est-à-dire que ça consiste à trouver la mission la plus appropriée au projet professionnel du jeune adulte, aux compétences de l'étudiant. Il y a déjà 100 000 inscrits et près de 12 500 clients. Bonjour Jean-Baptiste Achard.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de StaffMe. Donc vous avez fondé cette entreprise il y a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui vous différencie des sites classiques de recherche d'emploi ou des petites annonces? C'est quoi votre plus?
Je pense que notre plus, il est vraiment du côté des staffeurs. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui travaillent, dans l'accessibilité qu'ils ont vis-à-vis des missions. C'est-à-dire que quand vous êtes staffeur, il est très 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 simple de travailler.
Comment ?
Tout simplement avec une application mobile où vous allez recevoir des offres qui correspondent à votre profil, comme vous l'expliquiez. L'idée, c'est que très simplement, vous allez ouvrir l'application ou même ne pas l'ouvrir, vous allez recevoir des notifications avec des offres qui correspondent à ce que vous voulez faire et vous n'avez qu'à répondre oui pour accepter l'offre et la faire, la mission en question, ou non pour la refuser. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée. C'est l'accessibilité très facilement à des offres d'emploi ponctuelles.
Alors, accessibilité, mais il y a aussi un détail qui est important, c'est que vous les incitez à devenir quasiment entrepreneurs, puisqu'il faut tout de même créer un statut d'auto-entrepreneur pour s'inscrire sur votre plateforme.
Tout à fait. Nous, tous les jeunes qui travaillent via la plateforme StaffMe ont un statut d'auto-entrepreneur.
Ils sont nombreux, oui.
Aujourd'hui, on en a près de 3000 qui travaillent par jour.
Ça correspond à... Enfin, c'est beaucoup d'étudiants qui...
Oui, à 90%, ce sont des étudiants. Et alors, il y en a beaucoup qui avaient le statut d'auto-entrepreneur avant même d'arriver sur la plateforme, parce que ce qu'on constate, c'est vraiment un mouvement générationnel, l'adoption de ce statut d'auto-entrepreneur. Vous le voyez tous les jours dans votre émission, avec cette hype de l'entrepreneuriat. Et bien, elle touche aussi les jeunes. Et du coup, beaucoup d'entre eux avaient déjà ce statut. Ceux qui ne l'avaient pas, on leur explique tout simplement comment ça fonctionne.
C'est très facile
C'est très facile, ça prend 5 minutes, c'est un formulaire sur Internet. On leur explique comment ça fonctionne, les charges qu'ils auront à payer, etc. Et on les accompagne tout le long du processus pour qu'ils puissent après travailler très simplement via la plateforme.
Le coach, Guillaume ?
Moi, je me posais une question juridique. Il n'y a pas un risque de requalification pour ces contrats d'auto-entrepreneurs sur la plateforme ?
Alors non, l'auto-entrepreneuriat a été prévu justement pour ça, pour faire ces petites missions en complément de revenus. Par exemple, nous, on le fait avec des étudiants, donc en complément de leurs études. Donc,
évidemment... pour effectuer un travail qui habituellement est effectué, même ponctuellement, par un salarié, il peut y avoir un risque de requalification.
Après, c'est le juge qui jugera. Mais l'idée est vraiment, et pour le coup, ça fait 2 ans et demi qu'on existe, comme vous le disiez, on a de nombreux clients, des grands groupes, des plus petites entreprises, et on n'a jamais été confronté à ce risque de requalification. Pourquoi ? Parce que justement, on encadre les missions, notamment dans le temps. On leur donne une rémunération minimale qui est 12 euros de l'heure pour les étudiants, soit 50% de plus que le SMIC. On se place en tant que plateforme comme un régulateur, c'est-à-dire qu'on va leur permettre d'avoir une protection sociale, comme ils sont étudiants, ils ont leur prévoyance. Enfin, tout un tas de choses qui font que, justement, on leur permet d'être dans un environnement de travail simple et sain.
Alors, Elisabeth. Imaginez, j'ai 20 ans, là, je vis à Bordeaux. Aujourd'hui, là, mardi, quel type de mission je peux trouver cet été si je m'y prends aujourd'hui?
Alors, j'ai regardé un peu, du coup, vous m'aviez posé la question tout à l'heure en off. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait en ce moment à Bordeaux et j'ai vu que, justement, il y avait une mission la semaine prochaine pour une entreprise, une marque de chaussures qui dure 4 jours.
C'est quoi?
Donc, je
ne
citerai pas la marque. C'est les chaussures qui respirent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que.
Et c'est pour faire de la vente en boutique exactement pendant 4 jours.
Donc, c'est quelque chose de ponctuel. Il y a un début, une fin. On le sait dès le départ et ça permet finalement de s'essayer aussi.
Complètement. Ces jeunes-là, ça leur permet, la première chose qu'ils voient, c'est d'abord la rémunération qu'ils vont avoir, évidemment, c'est le premier aspect. Et surtout, après, c'est la multiplication des expériences professionnelles. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont fait plein de missions et que ça leur permet justement de se former professionnellement pour demain. Avoir une vraie valeur sur le marché du travail.
Ça s'appelle StaffMe, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous la présenter.
Merci
à Guillaume qui était notre coach, Guillaume Thierroux. Elisabeth, on se donne rendez-vous
demain.
Et n'oubliez pas, à partir du 13 juillet, vous pouvez venir nous parler de vos solutions. La France des solutions va démarrer le samedi sur Europe 1. Des idées qui nous rassemblent, à vous de les poster sur le site europe1.fr.